RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public se poursuit, les GG, et son lot de spectacle aussi. Avec cette passe d'armes hier entre le rapporteur Charles Alloncle et le président de la commission Jérémy Patrier-Létu. Au cœur de l'altercation, les actionnaires de Media One, la société qui produit des émissions pour France Télévisions, dont C'est à vous et C'est dans l'air. Est-ce qu'on s'en fout ou pas de cette altercation, ma chère Zora?
On va l'écouter
tout de suite après. Bruno.
Non, on s'en fout pas.
Emmanuel.
On s'en fout pas.
On écoute tout de suite ces pop-corn.
Arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger.
Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires.
Non, 50%. C'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur.
Monsieur,
j'ai été entrepreneur. Une entreprise.
Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains. Mais monsieur le président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être, avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre.
Merci, monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux.
C'est une question. Pourquoi vous me répondez à chaque fois?
Merci, messieurs les ministres.
Mais non, mais... Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps?
Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets
fin
à cette audition.
Président,
et je remercie les ministres
de leur
présence.
Monsieur le président, j'avais.
Voilà, suspension de séance. Séance agitée, hein. Zora, pourquoi tu t'en fous pas?
Oh, c'est les guignols, je sais pas. Non,
ah
mais
bon
c'est.
Non,
ah
non,
mais
je trouve ça ressemble aux grandes gueules.
Oui, aux grandes gueules, évidemment, mais non, mais personne peut nous imiter, nous.
En moins bien.
En mieux payé aussi. Non, c'est affligeant, ces gens qui sont censés avoir des responsabilités et constituer ceux qui ont, détiennent en tout cas le savoir et le pouvoir, se comporter comme ça. Voilà, ça en dit long. Moi, je suis atterré de voir à la fois à l'Assemblée et à la fois comme ça dans des commissions et ailleurs, les gens se comportaient de la sorte. Enfin, c'est le fond, c'est même pas l'histoire du fond, c'est l'histoire de comment on se comporte. Et en fait, non, mais ça a toujours existé, bien sûr. On a vu des passes d'armes bien pires que celle-là, mais peut-être avec plus d'élégance, peut-être avec plus de respect.
Il n'y a pas d'invective là.
Non, d'accord. Mais bon, voilà.
Emmanuel. Oui. Bah, je rejoins Zora. Ce qui est très amusant dans cette séquence, c'est le décalage entre les formules, Monsieur le Président, Monsieur le Fondé de Pouvoir, Monsieur le Délégué Général. Oui.
Monsieur le Rapporteur.
Voilà, je suis rapporteur.
Et le reste.
Mais Jérémy, mais t'en va pas, il y a des frites à la cantine.
Jérémy, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Bruno.
Oui, c'est non, mais ce qui
craint, c'est que quand on montre les deux en train de faire les cons, là, en fait, on parle pas du vrai sujet, en fait. En fait, le vrai sujet, c'est que dans cette commission, évidemment, elle est à charge depuis le début sur le service public. Quand tu demandes à une femme si son mari ou son mec se présente aux élections, est-ce qu'elle va sortir? Enfin, à un moment donné, c'est quoi l'histoire? Elle, heureusement qu'elle a répondu en expliquant que, elle n'est pas obligée de penser comme lui, mais que oui, effectivement, elle sortira. Mais je comprends. Enfin, en fait, on est dans un truc.
Parle de Léa Salamé.
C'est quand même 4 milliards d'argent public.
Oui, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi c'est des boîtes privées qui produisent les programmes
de
public. C'est ça le sujet. Et le sujet, c'est pas de se dire.
C'est pour ça qu'on parle de Media One.
Ouais, mais Media One, c'est pas de dire qu'après. En fait, il parle de Media One, mais qui parle vraiment du sujet, c'est le financement. Après, que le financement de Media One vienne de boîtes étrangères, dans ce cas-là, toutes les boîtes étrangères aujourd'hui, la plupart des boîtes françaises ont des investisseurs étrangers, quels que produisent, et même des investisseurs des boîtes publiques.
Non, mais la question est de savoir, est-ce que ton argent qu'on te prélève chaque mois sur ton salaire de cheminot doit financer une entreprise qui a des fonds américains? Voilà.
Moi, je préfère qu'elle finance des programmes culturels.
C'est la seule question qui vaille.
Des programmes culturels, et si c'est des boîtes américaines, là, le problème, il est là. Pourquoi nous, en France, on n'est pas capable de produire des programmes de qualité? On est obligé de faire venir des Américains pour le faire. Moi, je comprends un peu.
Mais parce que, étonnamment, dans la loi, loi audiovisuelle, on impose à France Télé de faire appel à des sociétés extérieures. C'est ça.
Donc la loi, c'est bien des gens comme lui qui l'ont voté.
Oui, avant eux, parce que
oui, avant eux, mais ça reste des députés qui ont voté une loi comme ça, de donner de l'argent public au privé, comme d'hab.
Non. Les GG, la France est sauvée. Elle est là, la candidature qui va redresser le pays.
For sure.
Celle de Jérôme Guedj, le député socialiste. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Emmanuel?
C'est un gros pchit, donc on s'en fout.
Zora.
Non, on s'en fout pas.
Bruno.
Pff,
m'en fous littéralement.
Il l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Inter. Jérôme Guedj veut ainsi porter la voix d'une gauche républicaine, européenne, universaliste, laïque, sociale et écologiste, Zora.
C'est l'occasion de dire d'abord, même avec tout le respect que j'ai pour Jérôme Guedj, et je pense que c'est un vrai républicain, il arrive après la bataille. C'est trop tard.
Ah bon ?
Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. La France est trop fracturée. La question de la République qui est centrale, elle est portée par personne, quasiment pas. Et puis la gauche s'est trop trahie et a trop traîné de déni et de complaisance sur un certain nombre de sujets. Donc Jérôme Guedj, avec toute la meilleure volonté qu'il a, le peuple de France n'est quasiment plus à gauche. D'abord, il est dépité ou il ira plus voter. Et je vois pas la gauche républicaine sociale démocrate, je vois pas ce que c'est aujourd'hui, il faudra qu'il nous explique entre les uns qui ont basculé à l'extrême gauche. Non, c'est trop tard. Moi c'était mes copains les socialistes pendant 20 ans. Bah vous arrivez après la bataille, vous avez trop été dans le déni et la complaisance. Bah maintenant c'est bien fait pour vous, vous allez attendre votre tour. Une prochaine fois, on passera certainement par des zones de turbulence avant, mais en tout cas, vous en avez été un des créateurs et Jérôme Guedj comme Anne Hidalgo et comme tout le PS Olivier Faure etc. Ouais. Ils peuvent agiter toutes les candidatures qu'ils veulent. La France est partie déjà ailleurs et elle attend l'ordre, oui, là... l'autorité et elle attend autre chose que encore du mou.
Tu voteras pas Jérôme Guedj, j'aurais bien compris. Mais ce qui est intéressant,
non,
c'est
je l'aime bien Jérôme Guedj, c'est un vrai républicain.
Ce qui est marrant, c'est que Jérôme Guedj, il sort un peu de nulle part là, parce que oui. Ça surprend tout le monde. Pourquoi ce matin il décide d'être candidat? Il dit qu'il sera candidat hors primaire, donc ça veut dire que la primaire que certains veulent mettre en place, à mon avis, a du plomb dans l'aile, parce que même lui ne veut pas la faire. Donc Luxman ne veut pas. Mélenchon veut pas.
Non mais...
Donc finalement, on ne sait pas qui veut faire la primaire après, à part Olivier Faure et Marine Tondelier. Et Jérôme Guedj, c'est un peu le syndrome Macron. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se croit capable d'être candidat en étant sorti un peu nulle part. Bon, c'est assez curieux, mais il y en aura d'autres. Tu vas voir, il y en aura plein.
Oui.
Quand je vois que Clémentine Autain veut y aller, François Ruffin, enfin, je vais à gauche, on va se retrouver avec 25 candidats. Hein.
Ruffin, il va à la primaire.
Oui, il va à la primaire. Ouais. Bon, enfin, il est candidat avec son président.
C'est mais Olivier, ce qui est intéressant, c'est de dire je vais servir la gauche républicaine.
Bah, en fait, parce que c'est ce qui correspond. Mais après, toi, tu y crois plus. Mais lui, il y croit. Il a le droit d'y croire.
Mais il y croit tout seul, quoi.
Ah, je suis pas sûr. Glucksmann a fait 14% européenne, donc il y a quand même encore. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a encore et d'autant notamment parce que Macron ne sera plus là. Donc il y a des gens de gauche qui votaient Macron et ces gens de gauche ne voteront pas Mélenchon et donc ils voteront quelqu'un de social-démocrate qui est Jérôme Guedj. Moi, j'y crois pas beaucoup à Jérôme Guedj, mais il y a quand même un créneau à prendre.
C'est surtout un coup de bâton sur la primaire à gauche, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mec qui sortira de la primaire à gauche, il n'aura aucune intimité.
Oui, mais tous ces candidats, ils oublient une chose, c'est que, y a qu'un intérêt si on est candidat, c'est d'être au deuxième tour.
Oui, déjà.
Et puis, faut avoir les 500 signatures.
Aussi. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là?
Ah, il est bon, ça, il faut le sortir.
Il est bon, mais oui, c'est exceptionnel. Les GG, votre couple a-t-il survécu au mois de janvier, le mois des séparations, le mois de l'année qui enregistre une hausse des divorces? Il y aurait même un divorce day le premier lundi de janvier. Alors pourquoi? En fait, ce serait le mois du passage à l'acte dans les couples déjà fragiles, après des fêtes de fin d'année parfois intenses. Hein. C'est le constat que font des cabinets d'avocats, selon nos confrères du Parisien. Vous savez que 75% des demandes de divorce sont initiées par les femmes. Janvier à risque pour les couples, donc, car c'est le moment de l'année qui connaît aussi un pic d'infidélité. Selon le site de rencontres extra-conjugales, Glidden, vous avez survécu, vous, Emmanuel?
Vous en foutez ou pas du mois de janvier?
Non, moi, je m'en fous pas. Oui, voilà. C'est intéressant, c'est
Bruno.
Non, on s'en fout pas.
Affirmatif, j'ai survécu.
Bon.
Pourquoi t'en fous pas,
C'est rigolo. Ça veut dire que je pense que la période de Noël où peut-être qu'on se lâche un peu et on se dit des vérités à table.
Surtout, on passe du temps ensemble et peut-être qu'on se dit,
janvier lève le voile un peu sur un certain nombre de choses. Et le fait que 75% des femmes sont à l'initiative, tout le monde sait que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Ça, c'est, on n'a rien inventé.
C'est clairvoyant.
Et moi, mon couple, s'il n'a pas survécu, c'est pire que ça.
Vous avez passé combien de Noël avec
41.
Ça va.
41 Noël. Voilà.
Et toi, Bruno, ton mari est arrivé.
Moi, je suis bien content.
On peut le saluer.
Voilà. Je suis bien content quand mon couple survit le soir. Tu vois, tous les soirs, je fais une petite croix. Ça, bon, ça tient pas. Non, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, t'es quasiment à plus de 50% de divorce. Et derrière, ça fait des gamins malheureux parce que tous ceux qui ont été fils de divorcés, moi, j'ai perdu mon père à 8 ans. En fait, quand tu te retrouves avec
surtout quand tu te sépares, quand l'enfant est petit.
Ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que rapidement, un coup de vent peut te faire divorcer, en fait. Alors qu'en fait, avant, tu voyais même si tes parents
déjà s'accrochaient un peu le truc.
Moi, je connais quelqu'un que je salue s'il écoute quelqu'un qui m'a chié dans les bottes. Et lui, il est plus fort, il est divorcé de père en fils.
Ah,
c'est remarquable.
Non, mais c'est vrai que dans les générations, dans beaucoup de couples, la longévité d'un couple, c'est traverser les tempêtes ensemble, tenir et accepter la mutation de la relation dans les sentiments. En fait, la passion, il y en a qui peuvent vivre l'amour que dans la passion. Ouais. Et puis il y en a qui acceptent la mutation des sentiments,
la
qui
construction.
Et d'ailleurs, c'est une construction. Avec Yves, moi j'ai connu Yves, j'avais 20 ans.
Enfin, t'as connu que lui, quand même.
J'ai connu Yves, j'avais 20 ans, on s'est mariés. Non, bien sûr que j'ai pas connu Yves. Heureusement d'ailleurs. Mais on s'est mariés au bout de 3 mois. On s'est mariés vraiment à la mairie.
Ouais, Paris.
Ouais. Et
comment il t'a convaincu?
J'ai l'impression qu'on a fait la guerre ensemble. En fait, on a vécu des trucs. D'abord, des drames, oui. Des trucs hyper durs, la maladie, la pauvreté, la précarité, l'extraction de sa condition sociale. Enfin, c'était très, très. On a eu une vie dure, mais on est heureux, quoi. C'est
solide.
On est solide. Et puis ça se construit. C'est une construction intime qu'il faut accepter de traverser.
Moi, je crois que c'était l'été qui était fatal pour les couples.
Pour l'infidélité.
On peut plutôt positiver en pensant à tous ceux qui vont se rencontrer en 2026.
Voilà.